Ciber, 40 años en el corazón de la cultura.
Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Jason Paré au micro, en remplacement d'Alexandra Guélil. Vous écoutez Angle droit, votre rendez-vous hebdomadaire proposé par Éducaloi pour parler de droit autrement. En entrevue aujourd'hui, nous allons parler du récent jugement de la Cour d'appel au sujet de la loi 21 sur la laïcité de l'État avec Patrick Taillon, professeur titulaire et co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval. En studio avec moi, il y a Geneviève Benoît, chef de l'administration et des expertises chez Éducaloi, Marie-Neige Brisebois, étudiante en droit à l'Université de Sherbrooke et aussi chez Éducaloi, ainsi que Marc-Antoine Harvé, vulgarisateur juridique, toujours chez Éducaloi. Alors, oui. Bonjour à vous trois.
Merci. Bonjour, Jason.
Geneviève, tu nous proposes un quiz aujourd'hui.
Oui, un jeu questionnaire sur le droit du travail. J'ai hâte de tester vos connaissances, collègues.
Et toi, Marie-Neige, de ton côté, tu veux nous parler des limites de nos droits et libertés.
Oui, exactement. En fait, on va voir dans quelles circonstances le gouvernement peut restreindre nos droits et libertés fondamentaux.
Parfait. On y revient dans pas très longtemps après notre entrevue avec Patrick Taillon. Mais pour commencer, on va faire le tour des actualités avec Marc-Antoine Harvé. Alors, le gouvernement du Québec fait pression sur Ottawa pour criminaliser le contrôle coercitif. Qu'est-ce que c'est?
Jason, on veut introduire une nouvelle notion juridique. Je dis nouvelle, mais elle a déjà été insérée dans la loi sur le divorce. On parle de le contrôle coercitif. Vous savez, dans le code criminel, il y a déjà des infractions qui peuvent être appliquées dans le cadre d'un dossier en violence conjugale. On peut faire des menaces, on peut faire des voies de fait, on peut faire de l'intimidation, mais il n'y a rien qui englobe en général le concept de violence conjugale. Donc, c'est ce qu'est le contrôle coercitif. Ça serait d'intimider, de manipuler, d'humilier son partenaire, d'isoler son partenaire de ses amis, d'avoir le contrôle sur ses comptes en banque, toutes des petites choses qui, une fois cumulées, font que la personne est dans une situation très difficile. Une amie d'Éducaloi, Maître Marie-Claude Richer, avocate et directrice du projet Rebâtir, nous explique qu'environ 90 % des dossiers de violence conjugale auraient cette infraction-là si jamais elle était codifiée dans notre code criminel. Donc, c'est vraiment beaucoup. Puis souvent, si on travaille comme procureur, si on a l'emploi de trouver les infractions, on n'est pas capable de bien classer, puis on n'a rien qui nous permet de circonscrire ce qu'on veut éliminer. Mais c'est encore une compétence fédérale. Donc, le Québec, en ce moment, fait pression pour essayer d'introduire ce crime-là, mais ce sera toujours le gouvernement fédéral qui ira à codifier cette situation-là dans le code criminel. Donc, Ottawa reste ouvert à la situation, mais on va attendre des nouvelles là, dans les prochains temps.
Parfait. Une décision importante oblige une maison de soins palliatifs à offrir l'aide médicale à mourir.
La maison de soins palliatifs Saint-Raphaël s'est installée dans une ancienne église et est obligée maintenant d'offrir les soins d'aide médicale à mourir puisqu'il y a eu les modifications dans la loi sur l'aide médicale à mourir qui les oblige à le faire. Mais l'église a contesté l'obligation au sens que, selon les croyances catholiques, l'euthanasie pourrait constituer un acte moralement inadmissible.
Donc, c'est dans une ancienne église, mais c'est aussi dirigé par une église, c'est ce que je comprends.
C'est ça, il y aurait un archevêque qui ne voulait pas offrir ces soins-là, puis on a saisi le tribunal, justement, pour avoir cette exception-là. Mais, comme je vous ai dit, dans la nouvelle loi, toutes les maisons de soins palliatifs doivent le faire, et le tribunal a dû s'y pencher, on va voir avec ma collègue Marie-Neige, plus tard, même avec votre invité, le tribunal a souvent à sous-peser des droits fondamentaux. Donc, dans ce cas-ci, c'est le droit d'avoir la liberté de religion de son choix, mais le droit à l'aide à mourir a été édicté suivant l'arrêt Carter et qui est fondé sur la sécurité de la personne. Donc, encore là, on a deux droits fondamentaux. Puis, dans ce cas-là, le tribunal a dit que malgré le dilemme moral de l'Église, on a jugé que c'était de moindre importance par rapport à l'intérêt du public de choisir ses soins et son traitement médical, surtout dans le cas de l'aide médicale à mourir, qui est devenue une réalité incontournable de la société québécoise.
Certains électroménagers pourraient disparaître du marché québécois en raison de l'obligation de traduire les réglages en français.
Exactement, ouais. Jason. À partir du 1er juin 2025, on aurait une obligation que tous les appareils électroménagers soient traduits en français. Donc, les boutons on-off deviendraient marche-arrêt, ce genre d'exemple-là. Récemment, Québec a partagé son projet de loi avec le milieu des affaires pour réviser des changements. Vous allez devoir changer vos électroménagers pour qu'ils soient conformes au règlement. La Belgique avait déjà obligé certains manufacturiers à le faire.
Ça a fonctionné.
Ça avait fonctionné, mais dans ce cas-ci, la réaction du marché a été différente puisqu'on disait que le Québec ne comptait que pour 2 % du marché nord-américain. Donc, c'était un changement qui, peut-être, n'allait pas apporter assez de bénéfices pour eux.
Mais d'un autre côté, j'imagine que ça pourrait être accessible aux francophones ailleurs qu'au Québec.
Peut-être.
Mais écoute, en Nouveau-Brunswick, les Acadiens.
La solution à ça pourrait être assez simple. Placer des collants ou pas obligé de modifier tout le système, mais il y a des modifications faciles qui peuvent être faites.
Ouais. Ça existe déjà, les autocollants. Moi, je l'ai eu pour certains appareils. Là,
ouais. Exact, Jason. Puis moi, je voulais vous demander, à vous, est-ce que c'est important d'avoir vos électroménagers en français? On ne sait pas.
C'est une question qu'il faut vous répondre, ouais. Geneviève.
Même vous à la maison.
Mais si les gens, mon niveau d'anglais, je dirais que oui, ça peut être important. Dans certaines situations, peut-être. Ça peut être une question de sécurité. Même
le bouton popcorn.
Nice. Oui. Hein?
Mais tu sais, pour on-off ou clock, peut-être pas, mais c'est rendu que les électroménagers, c'est comme des ordinateurs. Tu as même le Bluetooth dessus. Donc, j'avoue, selon tes compétences en anglais, ça peut peut-être être pratique d'avoir une fonction français dessus.
C'est peut-être de trouver l'utilisation de pictogrammes aussi qui va pouvoir venir sauver la donne.
En effet, peut-être. Une dernière petite nouvelle, oui. Jason, très rapidement.
Ben oui, c'est le mois de la justice.
Exact. Je voulais vous inviter tous et toutes à la maison à venir nous visiter au métro Place des Arts. On a un kiosque. C'est une initiative de Jury Pop. On a plusieurs organismes qui se rassemblent pour aider la population à mieux connaître ses droits. C'est le mois de la justice. Donc, à chaque jeudi du mois de mars, de midi à 18h, on vous attend. On pourra vous donner des informations sur des situations que vous pouvez avoir et vous pouvez rencontrer Jury Pop, avoir une consultation gratuite avec eux de 15 minutes.
Mais là, toi, tu seras-tu là?
Peut-être. Été là et ça me fait plaisir de vous jaser avec vous.
Surprise. Alors, si vous voulez voir Marc-Antoine, il faut aller au métro Place des Arts. Ben merci. Merci. Pour rappel, tu es vulgarisateur juridique chez Éducalois. Fin février, la Cour d'appel du Québec a confirmé la validité de la loi 21 sur la laïcité de l'État et le port des signes religieux. Le tribunal a également remis en question le régime d'exception pour les commissions scolaires anglophones qui avait été décrété par la Cour supérieure en avril 2021. Pour mieux comprendre ce jugement, nous joignons par téléphone Patrick Taillon, professeur titulaire et co-directeur du Centre d'études en droit administratif et constitutionnel de la Faculté de droit de l'Université Laval. Alors, Monsieur Taillon, bonjour.
Bonjour.
Le gouvernement Legault a utilisé la clause dérogatoire de manière préventive au moment d'adopter son projet de loi sur la laïcité, une décision qui n'a pas été remise en question par la Cour d'appel, si je ne me trompe pas. Pour commencer, pouvez-vous nous expliquer ce que c'est la clause dérogatoire, également nommée la clause de souveraineté parlementaire, et pourquoi a-t-elle été inscrite dans la Constitution?
Il faut comprendre que la Constitution du Canada, comme un document unique, ça n'existe pas. Là. C'est un ensemble de lois et de sources non écrites dispersées. Et plusieurs de ces lois sont des lois britanniques, modifiables uniquement par les Britanniques. Donc, en 1982, on a procédé au rapatriement du pouvoir de modifier notre propre Constitution. Et à ce moment-là, il y avait une majorité de provinces, ils étaient 8, qui voulait juste rapatrier le pouvoir de modifier notre Constitution, puis s'arrêter là. Et de l'autre côté, il y avait le fédéral, l'Ontario et le Nouveau-Brunswick qui disaient « Non, il faut en profiter pour faire un ajout. » Et cet ajout-là, c'était ce qui va devenir la Charte canadienne des droits et libertés. Et donc, pendant des mois, des années, vous aviez cette majorité de provinces qui s'opposait au fédéral et à une minorité de provinces sur l'enjeu de la Charte. C'était un dialogue de sourds. C'était l'impasse la plus complète. On est même allé en Cour suprême pour savoir qui avait le droit d'agir, etc. Et le compromis de dernière minute, dans la nuit du 4 au 5 novembre 1981, ça a été de négocier. Au moment de la négociation de ce compromis-là, le Québec est dans un autre hôtel, de l'autre côté de la rivière Gatineau, de la rivière Outaouais, pardon. Mais les autres premiers ministres des provinces vont négocier un compromis qui va rallier 9 provinces puis le fédéral. Et ce compromis, c'est l'adoption d'une charte, mais avec une disposition de souveraineté parlementaire ou une capacité d'y déroger, pas à tous les articles, pas pour l'éternité, mais bref, depuis ce temps-là, ça fait partie un peu du compromis canadien en matière de protection des droits et libertés. On est un peu dans un système comme les États-Unis, où il y a une charte, un Bill of Rights, avec un juge qui peut en assurer la primauté. Mais en même temps, on a aussi un peu de Royaume-Uni en nous, à travers cette disposition de souveraineté parlementaire qui permet aux législateurs fédéraux ou provinciaux de retrouver le pouvoir qu'il avait jadis. D'échapper à la jurisprudence au besoin.
Une certaine souveraineté, justement, comme le dit l'un des noms. Est-ce que c'est la première fois, avec l'adoption de la loi 21, que la clause dérogatoire est utilisée de manière préventive ou cela, ça s'est déjà fait par le passé?
Ah non, ça s'est déjà fait par le passé. Puis d'ailleurs, c'est un peu difficile de définir conceptuellement c'est quoi une utilisation préventive. On comprend que la dérogation s'inscrit dans un dialogue entre le pouvoir politique et le pouvoir judiciaire. Puis à travers l'édiction des lois qui sont ensuite contrôlées par les juges, il y a comme un jeu de ping-pong, il y a un échange. Et à travers ça, ben, l'idée, c'est que les lois sont améliorées. Les normes qui nous gouvernent sont perfectionnées par ce dialogue entre le juge et le législateur. Donc, on considère qu'une utilisation préventive de la dérogation, c'est une utilisation qui est faite avant que l'on sache ce que le juge pense de la loi. Mm-hmm. Mais bon, c'est difficile à définir parce que dans le cas, par exemple, de la loi 21, on avait déjà de la jurisprudence là, sur la loi adoptée par le gouvernement de Philippe Couillard sur la neutralité religieuse. On avait déjà de la jurisprudence sur la liberté de religion. Donc, était-ce une utilisation purement préventive où on avait déjà des bonnes indications? Chose certaine, au lendemain du rapatriement, ce dont on parlait tout à l'heure, ouais. 1981-1982, le gouvernement Lévesque et l'ensemble des partis représentés à l'Assemblée nationale étaient très choqués de cette humiliation qu'on avait fait au Québec, hein, refonder le Canada avec une nouvelle loi constitutionnelle sans l'accord de la seule province majoritairement francophone. Et de manière un peu politique, symbolique, le gouvernement Lévesque avait déposé un projet de loi omnibus. Donc une loi omnibus, c'est une loi qui modifie plusieurs lois. Et on avait ainsi modifié toutes les lois du Québec pour y inclure ce qu'on pourrait appeler la plus préventive et la plus systématique des dérogations, c'est-à-dire une dérogation dans toutes les lois du Québec pour bien marquer la volonté du Québec d'échapper à cette constitution que l'on cherchait à lui imposer. Et donc ça se passe en 82, le temps que ça se rende en Cour suprême, arrive autour de l'année 1987-88, l'arrêt Ford là, qui concerne la langue d'affichage dans la Charte de la langue française.
Ouais.
Et là, dans cette décision-là, la Cour suprême se prononce sur cette dérogation omnibus, préventive, systématique, ajoutée dans toutes les lois du Québec. Et évidemment, elle dit que la façon de déroger ici respecte l'article 33 et que c'est pas aux tribunaux de contrôler les raisons, le fond, les motifs qui amènent le législateur à exercer les pouvoirs qui sont les siens en vertu de l'article 33.
Très bien.
Et donc, ce que demandent ceux qui contestent la loi 21, c'est non seulement de réécrire un peu l'article 33 pour y mettre jurisprudentiellement des détails que nous n'avons pas actuellement dans le texte, mais c'est aussi de renverser le précédent clair de la Cour suprême dans l'arrêt Ford de 1988, d'où le fardeau assez élevé là, qui est devant eux en Cour suprême.
Très bien. Là, contrairement au précédent jugement, la Cour d'appel est d'avis que la loi 21 n'affecte pas les droits scolaires linguistiques anglophones. Pouvez-vous nous expliquer cette différence d'interprétation là, entre les deux tribunaux?
Ben, il faut dire que Les droits linguistiques ont souvent été interprétés de façon assez variable. Parfois, on a dit « Ah, c'est des droits pas comme les autres qu'il faut interpréter de façon plus restrictive. » Et parfois, on dit au contraire, il faut les interpréter de façon très généreuse. Et la décision de première instance du juge Marc-André Blanchard là-dessus s'inscrit vraiment là, parmi les décisions les plus audacieuses, les plus créatives, les plus téméraires à cet égard. Donc, lui, il faisait un lien, il disait « Bon, ce qui est assez bien établi, là, c'est qu'évidemment, c'est dans le texte, on a le droit à l'éducation dans la langue officielle de la minorité, là où le nombre le justifie. Donc, au Québec, là où le nombre le justifie, c'est moins un enjeu que dans les autres provinces. Et à l'occasion de l'arrêt Mahé, la Cour suprême a dit, ben, d'avoir des écoles dans la langue de la minorité, ça inclut aussi une certaine emprise sur la gestion de ces écoles-là. Par exemple, élire des conseillers scolaires ou des représentants des parents sur les conseils d'établissement, donc avoir une certaine emprise sur la gestion des écoles. Et là, de ce fait, le juge Marc-André Blanchard lui faisait un pas de plus, puis il disait ben ça donne aussi le droit d'échapper à des lois générales de droit commun comme la loi 21, du moment où lui faisait un lien avec parce qu'il essentialisait un peu un certain projet culturel de la communauté anglophone. Comme si la langue anglaise et la communauté anglophone du Québec avaient une conception très bien définie, précise et culturellement ancrée de son rapport à la religion. Et donc, il faisait un peu un jeu de domino de la langue à la culture, de la culture à la religion, pour élargir la protection de ce qui est, après tout, un droit linguistique à l'article 23. Et il faut comprendre que l'article 23 fait partie des rares droits dans la Charte canadienne auxquels l'article 33 ne s'applique pas. Autrement dit, le compromis dont on parlait tantôt, c'est que les provinces, puis le législateur fédéral, peuvent au besoin déroger aux droits pour 5 ans renouvelables, mais pas tous les droits. Il y a 3 catégories de droits qui y échappent. Les droits linguistiques, la liberté de circulation et les droits politiques liés aux élections.
Très bien. J'allais dire, c'est tout le temps qu'on avait, mais merci beaucoup, Patrick Taillon. On rappelle, là, on va surveiller ça parce qu'il y a une possibilité aussi que ça se retrouve à la Cour suprême. Alors, Patrick Taillon, professeur titulaire à la Faculté de droit de l'Université Laval, merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
Bonne journée.
Au revoir.
Alors, Geneviève Benoît, aujourd'hui, tu nous proposes un quiz sur le travail, sur le droit au travail.
Effectivement, je me suis dit que comme la semaine de relâche était derrière nous, les jeunes vont bientôt commencer à chercher un emploi pour l'été. Alors, c'était un bon moment pour vous faire ce jeu questionnaire-là, surtout que, en fait, toi, Jason, qui suis beaucoup l'actualité, tu le sais, là, depuis un an, l'âge minimum du travail a changé au Québec. C'est maintenant 14 ans. Sauf dans certaines situations, là, on peut garder des enfants, par exemple, avant l'âge de 14 ans, livrer des journaux, travailler pour l'entreprise de ses parents.
Oui, comme dans un milieu agricole où les enfants, des fois, sont impliqués sur la ferme.
Notamment, ou des petites entreprises.
Très bien.
Alors, j'y vais. Je vous dis, la première question, c'est un vrai ou faux? Alors, je vous invite tous à répondre. Un employeur qui veut prendre une personne à l'essai pour quelques heures avant de décider de lui offrir l'emploi doit la payer pour ses heures d'essai. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
C'est vrai.
J'imagine que c'est vrai.
Je vais dire faux.
Bon, OK, non, on a un dissident. En fait, c'était vrai, la bonne réponse. Donc, Marie-Neige et Jason. En effet, la loi sur les normes du travail prévoit que tout travail doit être payé au moins au salaire minimum. Puis ça va être la même chose si votre employeur vous demande, par exemple, d'étudier un livre de procédure, même d'observer des futurs collègues qui préparent, par exemple, si vous travaillez dans un café, qui préparent le café, donc d'être en mode observation. Il doit aussi vous rémunérer si vous devez suivre une formation, que ce soit en salle ou même une formation à la maison sur Teams, Zoom, peu importe, il doit vous payer pour ça. Deuxième question, tu vas pouvoir te reprendre, Marc-Antoine. J'ai des choix de réponses. Alors, quel sera le salaire minimum au Québec l'été prochain? Puis là, je parle du salaire de l'heure ici.
Oui.
Mes choix de réponse, A, 12,60 $, B, 15,25 $ ou C, 15,75 $.
75, C.
75, je crois.
J'aurais dit 25.
Ah, bien, cette fois-ci, c'est les garçons qui avaient la bonne réponse. Donc, 15,75 $. J'avais mis un petit piège quand même dans mes choix de réponse.
Il y avait le salaire à pourboire, c'est ça?
Exactement. Mmh. Donc, à partir du 1er mai, le salaire minimum régulier, si on veut, va être de 15,75 $. Par contre, il y a un deuxième taux de salaire minimum pour les employés à pourboire qui est de 12,60 $. Donc, quand même un peu moins que le salaire minimum régulier. Ma prochaine question, un vrai ou faux? Donc, 50 % de chances de réussite.
On aime ça.
Oui. Donc, si ton collègue, si ton employeur t'oblige à porter un vêtement en particulier pour travailler, par exemple, une chemise blanche, pantalon noir, il doit te les fournir gratuitement. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux?
Je m'imagine, ça dépend de ton salaire.
Est-ce que c'est tous les vêtements, les bas, les gants, les trucs?
Ah! Ben, je vais y aller avec la réponse de Jason, qui était la bonne vieille réponse juridique du « ça dépend ». Exactement.
Je commence à être habitué en travaillant avec des juristes.
Donc, si l'employé est payé au salaire minimum, l'employeur est obligé de fournir gratuitement les vêtements qui l'obligent, là, s'il y a un code vestimentaire. Donc, les bas, à moins d'exiger une couleur très particulière, ça ne ferait pas partie de ce qu'il doit fournir gratuitement. Si la personne gagne plus que le salaire minimum, elle peut être obligée d'acheter elle-même ses vêtements. Par contre, il ne faut pas faire en sorte que ça la fasse tomber sous le seuil du salaire minimum. Petite particularité, là, par contre, je parlais dans mon exemple de chemise blanche, pantalon noir. Dans le cas où c'est un vêtement qui identifie clairement l'entreprise, par exemple avec un logo, bien là, à ce moment-là, l'employeur est obligé de le fournir gratuitement à tous ses employés, peu importe leur salaire.
J'avais un beau polo quand j'étais guide touristique. Pour des entreprises qui vendent des vêtements, est-ce que là, ils sont obligés là, de porter ce qu'ils vendent dans la boutique?
Oui, l'employeur pourrait t'obliger à le porter, mais il ne pourrait pas t'obliger à acheter les vêtements pour les porter. Donc, je peux décider propriétaire d'une boutique de vêtements que tous mes vendeurs, toutes mes vendeuses doivent porter mes vêtements, mais je dois leur fournir gratuitement. Donc, décision d'affaires ici.
Très bien. Donc, une petite dernière question.
Oui. Alors, la dernière, je vais y aller avec, disons, toi, Jason, que tu travailles dans un café puis que par accident, t'échappes un cabaret de tasses. Est-ce que ton employeur peut enlever le montant sur ta paye pour se rembourser ton bris?
Ben, j'espère que non.
T'es maladroit?
Les gaffeurs.
Non, mais là, ça arrive, des accidents, personne n'est parfait.
Bon, encore une bonne réponse. Effectivement, il ne peut pas. Les accidents font partie des risques de ce qu'on appelle des frais d'exploitation d'une entreprise. Donc, même si ton contrat de travail aurait une clause à cet effet-là, ce serait interdit, il ne pourrait quand même pas retirer cet argent-là de sur ta paye.
Très bien. Donc, on rappelle que tu es... Oh, ouais, c'est vrai que c'est un long poste. Hein? J'ai pas mis les notes. Rappelle-moi ce que...
Chef de l'administration et des expertises.
Voilà, merci. Je bute là-dessus. on a appris rapidement un petit peu les règles du travail. C'est quand même compliqué. Donc, consultez le site d'Éduque-Loi ou encore celui de la Commission des normes et de l'équité, de la santé et de la sécurité au travail. C'est NESST pour les intimes pour avoir plus d'informations là-dessus. Merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, on va aborder les questions de liberté et de droits fondamentaux, avec Marie-Neige. Alors, pourquoi souhaites-tu nous parler de ça aujourd'hui?
Oui, en fait, si vous avez eu la chance de suivre l'actualité, vous aurez pu constater que le 11 janvier dernier, le Centre juridique des libertés constitutionnelles a annoncé son intention d'aller devant la Cour suprême pour contester la vaccination obligatoire pour voyager à l'intérieur du Canada. Donc, on affirme que cette mesure sanitaire-là aurait violé un droit protégé par la Charte canadienne des droits et libertés.
C'est quoi ça, le Centre juridique pour les libertés constitutionnelles?
En fait, c'est une organisation juridique qui défend les droits et libertés des citoyens canadiens sous la Charte canadienne des droits et libertés de manière pro bono, donc c'est-à-dire qu'ils le font gratuitement.
Ils sont gentils. La pandémie est derrière nous, alors pourquoi on veut revenir là-dessus sur les mesures sanitaires?
Oui, c'est une très bonne question. Bien, en fait, l'argument du centre juridique, c'est qu'il affirme pourquoi il veut aller devant la Cour suprême. C'est qu'il affirme que c'est nécessaire pour protéger les Canadiens contre les futurs abus du gouvernement. Donc, il affirme, par exemple, que la vaccination obligatoire aurait violé la liberté de circulation qui est prévue par la Charte canadienne.
Parce qu'on ne pouvait pas se promener ni en train ni en avion si on n'avait pas de passeport à ce moment-là, sanitaire.
Exactement. Vaccinal. Donc, on ne pouvait pas se promener entre les différentes provinces au Canada.
Très bien. Quels sont ces droits là, qui sont protégés par la Charte canadienne?
Il y en existe plusieurs, donc évidemment, je ne vais pas toutes les nommer. mais il existe, par exemple, des droits démocratiques, comme on peut penser à notre droit de vote, des droits à l'égalité. Donc, on est tous égaux sous la loi. Il y a également des libertés fondamentales, donc notre liberté de religion, notre liberté d'expression, notre liberté de réunion pacifique. Il y a également certaines garanties juridiques qui est prévues par la Charte canadienne, comme la présomption d'innocence ou le droit contre les fouilles ou les saisies abusives, là, par exemple.
Mais là, il y a des cas où, justement, le gouvernement peut restreindre les droits et les libertés.
Oui, exactement. Mais il existe des situations dans lesquelles certains droits et libertés fondamentaux vont s'opposer, puis que l'un va devoir prévaloir sur l'autre pour respecter les intérêts et les valeurs de notre société démocratique. Donc, par exemple, les droits des enfants par rapport à leur sécurité et leur vie privée va primer sur le droit d'une personne adulte par rapport à la pornographie juvénile.
Mm-hmm.
Donc, dans ce type de situation, il est possible pour le gouvernement de restreindre ce droit à la liberté d'expression, par exemple, dans une loi ou une politique gouvernementale ou un règlement. Donc, dans ce cas-ci, c'est le code criminel qui interdit la pornographie juvénile, même s'il n'y a aucun véritable enfant qui n'est impliqué à l'intérieur.
Mais là, comment on détermine qu'une restriction est raisonnable?
Bien, à travers les années, les tribunaux y ont élaboré un test qu'on appelle le test de l'article 1er de la Charte ou le test de l'arrêt Oaks. Donc, dans ce test, le tribunal y cherche à comprendre l'importance et l'objectif de la règle de droit, l'urgence de la préoccupation à laquelle le gouvernement tente de répondre, mais aussi si cette restriction-là, elle est raisonnable. Pour savoir si cette restriction est raisonnable, le gouvernement doit se demander s'il existe un lien direct avec l'objectif recherché et démontrer que cette restriction-là, elle est limitée au minimum. Donc, évidemment, on va aussi rechercher que les conséquences de la restriction sont proportionnelles aux avantages que la règle de droit procure.
Très bien. Et là, rapidement, qu'est-ce que va faire le gouvernement si le gouvernement rejette cette explication?
Bien, tout simplement, la portion de loi, le règlement, devient inconstitutionnel, c'est-à-dire qu'elle est inapplicable.
Très bien. Bon, ben merci beaucoup, Marie-Neige Brisebois. On rappelle que tu es étudiante en droit chez Éducalois. Alors, ben vous entendez le thème. C'est déjà la fin d'Angle droit. Si vous avez des questions ou si vous souhaitez nous proposer des sujets, écrivez-nous à angledroit@commercialeducalois.qc.ca. Donc, avant de rendre l'antenne, je veux remercier Geoffrey Pro à la mise en onde, ainsi que les collaboratrices et collaborateurs de l'émission. Merci beaucoup. Alexandra Guélil sera de retour à l'animation la semaine prochaine. Ici Jason Paré qui vous souhaite une bonne journée à l'antenne de CIBL 101.5.
Plus de 30 ans, le journal mensuel Éco-Montréal est le fier porte-parole de l'actualité politique, économique, sociale et culturelle au cœur de Montréal. La promotion de la langue française a toujours été une préoccupation à Éco-Montréal. C'est pourquoi le journal a lancé le concours « Le français, la langue qu'on aime » en collaboration avec le ministère de la langue française et le CSSDM pour promouvoir le français auprès d'élèves de 3e secondaire en leur permettant de s'exprimer sur le sujet. Les trois finalistes verront leurs textes publiés dans le journal. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter notre plateforme numérique à ecomontréal.com ou à composer le 514-844-2133. 514-844-2133.
Tonique, c'est une émission dynamique sur le fanzine, la culture underground et les archives littéraires au Québec. Je reçois une zineur, zineuse pour jaser d'inspiration et de création chaque mercredi 18h sur les ondes de CBL 105 FM Montréal.
Django et compagnie, c'est une série d'entretiens avec des musiciens et des musiciennes de jazz manouche qui animent une communauté qui est en plein essor à Montréal. Interview et musique en direct, Django et compagnie, c'est mercredi à 20h.
CIBL 105 Montréal.
L'émission qui suit vous est offerte en rediffusion.
Les...